Radio Okapi. Le journal, c'est tout de suite avec Jacques-Yves Molima.
Suspension de l'administrateur du territoire de Kwamout et déploiement des militaires dans tous les coins du territoire. C'est l'une des résolutions pour apaiser la tension entre les peuples Teke et Yaka en conflit interethnique. C'est la retombée de la mission de 72 heures d'une délégation gouvernementale sur place. Numérisation de la gestion dans le secteur des passations des marchés publics pour renforcer le système de contrôle des finances publiques tant à l'interne qu'à l'externe. C'est ce qui sera fait avec le nouveau logiciel SIGMAP mis en place par le ministère du Budget. Son lancement officiel a eu lieu hier par le chef de l'État. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Maître Passi Mbayo, il est avocat au barreau du Haut-Katanga. Il nous parlera de la question, celle de savoir quand peut-on assigner un détenu à résidence et pourquoi recourir à ce régime et à quelles conditions. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La délégation gouvernementale qui a séjourné au territoire de Kwamout dans la province du Maïndombé pendant au moins 72 heures a pris quelques résolutions dans le but d'apaiser le peuple Teke et Yaka en conflit interethnique et depuis un certain temps. La gouverneure de cette province, Rita Bola, parle notamment du déploiement des militaires dans tous les coins du territoire et la suspension de l'administrateur du territoire de Kwamout. Elle fait aussi savoir que la délégation de Kinshasa a assisté les victimes des affrontements qui sont admis dans des hôpitaux. Rita Bola s'est dit aussi satisfaite du travail de ses militaires qui ont déjà réussi à mettre la main sur un homme armé, l'un des auteurs de ces troubles. Le point avec Irène Mbouma.
Parmi les résolutions prises par la délégation gouvernementale après les pourparlers avec la population à Kwamout, l'on note entre autres la suspension de l'administrateur de ces territoires et la nomination des nouveaux responsables de la police et de l'Agence nationale des renseignements ANR. Les sanctionnés ont été accusés par la population de complicité et d'avoir traité les conflits Teke-Yaka avec une certaine légèreté. La délégation a aussi appuyé à médicaments les formations sanitaires de Kwamout qui ont reçu des victimes. Une enveloppe importante a été remise pour la prise en charge médicale et alimentaire de ces dernières et pour la prime du personnel soignant. Ces informations sont livrées par Rita Bola, gouverneur du Maïndombe, qui annonce ici l'arrestation d'un assaillant armé.
On a eu une très bonne nouvelle hier. Nos militaires déployés sont tombés sur un des brigands qui faisait le terreur dans un des coins, accompagné de ses deux bandits aussi, surnommé le général Ozé. Il a été transféré aujourd'hui même chez l'auditeur général de Kinshasa. Donc on continue dans ce sens-là.
Pour Jean-Rifat Kabeya, un acteur politique de Kwamout, le pourparler du VPM ministre de l'Intérieur risque de ne produire aucun résultat à cause de la non-participation des peuples Yaka, l'une des parties en conflit. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS appelle les groupes armés actifs en province à la patience et à la cessation de ces actions contre les populations civiles. C'est là en entendant le démarrage effectif du programme dont le processus a déjà été lancé. Le vice-gouverneur, le vice-coordonnateur provincial du PDDRCS l'a dit lors de son passage à Beni la semaine dernière. Ndaya Mbaje Soukissa Joseph, coordonnateur adjoint au Nord Kivu, chargé des questions techniques et opérations, l'a dit au micro de Radio Okapi.
On a eu à discuter avec quelques partenaires et nous avons choisi des zones d'intervention pour l'encadrement des ex-combattants qui sont à Kalunguta. Notamment, il y a la zone de Masisi à la limite avec Walikale. Il y a aussi la zone de Lubero qui va encadrer Rutshuru, Bwito. Tous vont se retrouver vers Lubero. Nous devons leur parler pourquoi ils ont pris les armes, avec quel objectif. Et c'est ça l'essentiel du programme. C'est avec cette approche que nous allons arriver à démobiliser tous ces groupes armés. Parce que notre projet, c'est communautaire. C'est pourquoi vous me voyez à Beni. Pour venir voir ensemble avec des grandes notabilités, voir comment nous tous ensemble, nous allons mettre les batteries en marche pour que les groupes armés puissent comprendre comment trouver la paix. Pas avec agression, mais avec démobilisation. Nous demandons qu'un peu de patience, que chaque Congolais prenne conscience comment abandonner l'arme et prendre un élan de développement. Groupes armés du Nord Kivu, il est temps de construire.
Et puis en plus bref, en ce qui concerne le régime des embargos sur les armes du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous le savez, la résolution 2641 votée le 31 juin de l'année en cours par le Conseil de sécurité a fait jaser le débat sur un prétendu embargo de l'ONU sur les armes en République démocratique du Congo. tout en précisant que la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes, mais plutôt par un régime de notification d'armes. Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques de la MONUSCO, explique que la raison principale de ce genre de mesures est qu'un certain nombre d'armes se retrouvent entre les mains des groupes armés et c'est une des raisons de la persistance des conflits qu'on constate notamment à l'est de la RDC depuis tant d'années. Et c'est que le Conseil de sécurité souhaite, c'est qu'on en finisse et qu'on puisse empêcher toute fourniture d'armes à ces groupes. Son avis est partagé par certains experts congolais que nous avons abordés à ce sujet. Dans nos prochaines éditions, vous entendrez notamment le professeur Augustin Kaindo Mouessi, enseignant des sciences politiques à l'Université de Goma et à l'Université catholique du Graben de Butembo au Nord Kivu. Autre nouvelle, le phénomène Kuluna, cette délinquance juvénile dans la ville de Kinshasa, le nombre de jeunes appréhendés, surtout celui des récidivistes, inquiète et les autorités urbaines et celles de police se disent fortement préoccupées. Lors de la présentation publique ce lundi de 793 jeunes, dont des mineurs, par l'unité de la police de lutte contre la criminalité, le gouverneur de province a déclaré que l'envoi vers Kanyama-Kasese sera au préalable minutieusement analysé. Sinon, c'est la direction des prisons de Angenga et Ekafela qui sera retenue pour décourager certains. Reportage, Billy Ivan Lutumba.
Condamnés même au niveau de la justice, certains sont plus d'une fois réappréhendés par la police qui souffre d'énormes difficultés financières pour ses opérations de traque et aussi pour la prise en charge alimentaire et même d'incarcération. Commissaire provincial de la police.
Dans la cartographie criminelle, nous connaissons que tel couloir habite à tel endroit, il est dans telle écurie. On organise un bouquet ciblé, 3-4 maisons, on prend ces gens-là, on les défait. Mais malheureusement, quand on les arrête, on les envoie au parquet et après, ils sont libérés. Mais nous, on n'est pas découragés.
Des mises en liberté et aussi intervention des organismes de défense des droits humains qui semblent annihiler ces opérations de la police. Georges Kapiamba, coordonnateur de l'ONG ACAJ, réagit.
Nous allons nous mobiliser pour faire l'observation, travailler avec les autorités judiciaires de manière à ce que ce genre de récidivisme ne puisse plus être démis. Nous serons aussi des gendarmes contre les mauvaises actions de certains magistrats.
Quant aux moyens financiers, la question semble dépasser l'exécutif provincial. Gentiline Gobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
La ville n'a pas non plus de moyens colossaux pour satisfaire toutes les demandes de la police. Mais néanmoins, nous essayons à chaque fois de donner quelque chose.
Cette quasi-impuissance de mise à disposition par la police des moyens financiers ne trouve pas non plus solution au niveau de l'autorité budgétaire provinciale. Godin Pouy.
Il est de la responsabilité du Parlement national de doter la police de suffisamment de moyens budgétaires. Elle dépend d'abord du gouvernement national.
Face à ces réalités, la police sollicite des autorités urbaines que les interpellés soient dans ce cas envoyés à la prison de Angenga et aussi celle de Ekafela.
Un nouveau logiciel pour gérer les fonds de l'État, principalement dans le secteur de passation des marchés publics. Il s'appelle SIGMAP, Système intégré de gestion des marchés publics. Il a été lancé hier lundi à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un nouveau logiciel du ministère congolais du budget pour la numérisation de la gestion des finances publiques, la traçabilité et la lutte contre l'opacité souvent décriée dans ce domaine en République démocratique du Congo. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
En RDC, plusieurs faits et actes sont considérés parmi ceux faisant obstacle à une gestion efficiente des finances publiques. Le directeur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques.
Le manque de discipline budgétaire, faible respect des procédures dans la gouvernance du marché public, les niveaux très faibles de taux de recouvrement budgétaire par rapport au potentiel fiscal du pays, déficit d'encadrement de la gestion de partenariats publics-privés.
D'après le ministre du budget, Aimé Bougie, cet outil permettra d'automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics et de réduire le délai de traitement des dossiers ainsi que d'assurer la production automatique des statistiques.
Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. La mise en place du SIGMAP s'inscrit dans la démarche de garantir le bon emploi des fonds publics dès lors que les marchés publics représentent à ce jour 63% des dépenses réalisées par l'État. Ce portail web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques et ceux du secteur privé, réduisant ainsi fortement les opportunités de corruption.
Le ministre du Budget précise en plus que le SIGMAP va intégrer l'enregistrement des plans de passation des marchés et le traitement automatisé du contrôle, a priori la gestion et la publication des avis des marchés publics.
Autre nouvelle, l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, appelle à l'unité du Grand Équateur, mais aussi au soutien au programme de 145 territoires du chef de l'État en vue, selon lui, d'implémenter le développement de l'ensemble de l'Équateur et de tous les pays. Le président national du MLC l'a dit hier lundi à Mbandaka, à l'une des étapes de sa tournée entreprise depuis le week-end dernier à Bumba, à Bassankoussou et à Bouindé, afin de redynamiser son parti. Le point avec Paul Richard Malengela.
Très ému par l'accueil réservé avec sa délégation ce lundi à Mbandaka, Jean-Pierre Bemba a d'abord rappelé que si en 1998 il avait pris les armes, c'était pour défendre l'ex-Équateur de l'oppression et de la marginalisation qu'elle lui faisait subir l'ancien régime de l'AFDL. Aujourd'hui, sa formation, le MLC, fait partie de l'Union sacrée pour la nation en vue de la stabilité des institutions et du développement du pays. Cependant, le chairman a expliqué qu'aucun développement n'est possible dans la division. Voilà pourquoi le leader du MLC a aussi invité ses frères et sœurs de l'Équateur à l'unité et à la solidarité afin de reprendre à jouer un rôle important dans le concert de la nation. Jean-Pierre Bemba a longuement échangé avec les Mbandakais. Ces derniers lui ont demandé de plaider auprès des autorités nationales pour l'électricité et l'eau potable dans la province, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi pour la création des emplois avec la réhabilitation des entreprises telles que Bralima et Sibé Congo, ainsi que la matérialisation du programme des 145 territoires initié par le chef de l'État. Il a promis enfin de transmettre cette doléance à qui de droit, ainsi que l'invitation pressante de la population à la visite de Félix-Antoine Tshisekedi au Grand Équateur. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Dans la province du Maniema, passage libre sur le tronçon routier Kindu-Kibombo. La dynamique Salomo Idi Kalonda s'est investie dans l'entretien de cette route. Notre reporter Florence Kizalunga s'est rendue sur ces tronçons et nous parle de l'avancement de ces travaux qui sont exécutés par l'Office des routes grâce au financement de la dynamique Salomo Idi Kalonda dans ses reportages. Suivez.
Sur un total de 160 km, les engins de l'Office des routes se trouvent à 95 km. Tous les grands bourbiers qui se trouvaient au PK 37, 75 et 95 sont aplanis, laissant ainsi les passages libres aux utilisateurs de ces tronçons. À ce jour, les gens circulent librement de Kindu au village Lombé-Linganda. Au lieu de 8 heures, les utilisateurs des engins moteurs font maintenant 3 heures du temps sur cette distance de 95 km. Le chef de chefferie intérimaire de Matapa dit merci.
Comme témoignage ici, il y avait des érosions là où même les vaches tombaient et mouraient là même. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec le financement de notre frère Salomon, nous voyons que les histoires vont maintenant très bien.
L'Office des routes garantit toujours la population.
Cet endroit, c'était 17 mètres de profondeur sur cette érosion. La longueur de cet endroit s'évaluait à 350 mètres de long. On était en train de faire maintenant la procédure de prendre les matériaux au niveau des talus et les ramener vers pour avoir ces blocs que vous voyez en monobloc.
Selon Descadé, l'enveloppe allouée pour ces travaux était de 150 000 $, mais à ce jour, ils sont à 250 000 $ et les travaux continuent. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En Ituri, en plus bref, au moins 20 personnes ont été foudroyées lundi soir au village de Téléga, dans la localité de Katirogo, à environ 10 km de Bounia. Cependant, la pluie qui s'est abattue dans la ville de Bounia et sa périphérie. Selon des sources locales, parmi les victimes qui étaient blessées, 2 personnes, dont un commerçant qui vendait dans sa boutique, sont mortes dans une structure médicale. Plusieurs dégâts matériels ont été également enregistrés dans la ville de Bounia. Des appareils électroniques et électroménagers endommagés dans des maisons et des services, ainsi que la perturbation de la desserte en électricité.
Actualité internationale.
Le médiateur dans la crise guinéenne désigné par la CEDEAO a passé une semaine à Conakry. Thomas Boniayi a rencontré des officiels guinéens, dont le président de la transition, le colonel Doumbouya, le nouveau premier ministre Bernard Goumou. Il a aussi parlé avec des responsables de coalitions, des partis politiques et des responsables de la société civile qui lui ont soumis une série de revendications. Et puis, le premier parti d'opposition en Angola, l'UNITA, a annoncé mardi qu'il allait contester les résultats des élections législatives annoncées la veille et donnant le parti au pouvoir vainqueur et un second mandat au président. Président sortant, João Lourenço. Et puis, au moins 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées mardi 30 août dans des bombardements russes ayant visé le centre de Kharkiv au nord-est. La deuxième ville d'Ukraine a annoncé Oleg Sinegubov, le gouverneur régional, sur Telegram.
l'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Maître Passimbayo, avocat au barreau du Haut-Katanga. Il répond aux questions: quand on peut-on assigner un détenu à résidence et pourquoi recourir à ce régime et à quelles conditions? Maître Passimbayo, avocat au barreau du Haut-Katanga, s'entretient ici avec Jean Ngando. Suivez.
Maître Passimbayo, bonjour.
Bonjour.
Quand peut-on assigner quelqu'un à résidence?
On peut assigner quelqu'un à résidence ou le placer en résidence surveillée pour plusieurs motifs que le droit judiciaire congolais, surtout en ce qui concerne la procédure pénale. Il faut dire qu'il est des procédures ordinaires, il est aussi des procédures extraordinaires, puisqu'il faut faire la différence entre le contexte où quelqu'un est placé en résidence sans aucune qualité sociale, surtout dépositaire du pouvoir public, ou surtout pour ceux qui servent sous le drapeau. Mais il y a aussi le cas de ceux qui sont privilégiés de juridiction, couverts des immunités, et puis privilégiés de poursuites, qui sont aussi concernés par une espèce de placement en résidence ou à résidence surveillée, en vertu, par exemple, de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, la loi de 2013. D'ailleurs, dans la loi portant procédure devant la Cour de cassation, l'on essaie de rappeler certaines dispositions des lois ordinaires. Je peux prendre, pour exemple, l'article 74 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, où on vous dit, par exemple, que l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation, ou constate l'existence d'une infraction, même flagrante, à charge d'une personne qui, au moment de la plainte du constat, est membre du Parlement, transmet. Si je remonte un peu, on dit, par exemple, que les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Donc, quand on dit ordinaire, ça veut dire qu'il s'agit de la loi judiciaire ordinaire. Ou quand il s'agit des personnes qui sont dépositaires du pouvoir public, qui sont couvertes des immunités, privilégiées des juridictions et que sais-je encore, il s'agit là d'une question un peu extraordinaire.
Alors, peut-on être à la fois en prison et à résidence surveillée?
C'est difficile d'établir cette question, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui a été emprisonné, mais il tombe malade tout en étant en prison, et que l'on constate que pendant qu'il est en prison, on ne sait pas le soigner dans un centre pénitentiaire, on essaye de le sortir tout en étant en détention, on l'achemine vers un centre spécialisé sous surveillance d'un policier ou d'un APJ. L'on peut dire que cette personne, pendant qu'elle est identifiée être à la prison centrale, par exemple, mais c'est trouve spécialement, comme qui dirait, en résidence surveillée pour des raisons de soins.
Mais si on prend l'exemple de l'honorable Jean-Marc Kabound, qui devait être assigné à résidence, mais que l'on trouve toujours à la prison centrale de Makala, mais sous surveillance, y a-t-il une explication plausible qui pourrait être donnée par rapport à ça?
Le droit d'être assigné à résidence pour un député est un droit légal coulé lorsque vous lisez l'article 76, où on vous dit toutefois la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive, dont elle détermine les modalités de chaque cas. Et puis on dit la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Je pense que la question sous examen peut être comprise dans le retard administratif. Et ça veut dire lorsque le juge de la cassation se prononce sur le placement à résidence surveillée de l'individu qui est député de son état, mais le dossier doit être transmis, j'imagine, au greffe de cette cour-là, et puis le greffe de la cour doit transmettre le dossier au parquet près cette cour-là, et le parquet près cette cour-là, par la suite, doit faisabiliser les choses, soit par l'inspection, soit par le divisionnaire du parquet, qui doit cette fois-là organiser le placement de l'individu à résidence surveillée. Je me dis, est-ce que ces tralalas administratifs ne sont-ils pas entrés en ligne de compte de ce retard que nous essayons de constater? Le malheur aussi dans notre pays, c'est que le retard de l'administration n'est pas la faute du commettant, n'est pas la faute de l'agent administratif, sauf s'il est établi des questions, par exemple, d'un acte d'omission punissable. J'imagine que cela peut être le cas.
L'assignation à résidence est-elle un régime spécial pour les détenus ou une certaine faveur qui est donnée à X ou Y personne qui soit justiciable?
Relativement à l'article 76 de la loi de 2013 portant procédure devant la Cour de cassation, je peux dire que c'est un régime spécial pour les élus. Mais dans les cas ordinaires, ce sont des choses qui sont à l'appréciation des magistrats, pourquoi pas qu'ils soient debout ou assis. Placer quelqu'un à résidence surveillée n'est pas par principe un régime spécial. C'est d'abord ordinaire. Pour toute procédure ordinaire, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que l'article 76 parle des règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Mais j'ai dit que cette loi de 2013, portant procédure devant la Cour de cassation, a reconnu aux élus le bénéfice de cette assignation à résidence surveillée. Je crois que nous l'avons vécu à un moment donné de l'histoire avec l'honorable Jean-Jacques Mamba, qui est de la même législature que le cas sous examen.
Maître Passimbayo, je vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Élisée Chikota. Merci à vous également pour votre particulière attention.